Cantique 68, cantiques 1 et 4.
Nous avons besoin de faire nôtre pleinement ce que nous avons évoqué dans notre prière, que le Seigneur veut être notre berger. Et je voudrais lire quelques portions de ce qui concerne la vie de Jacob, en commençant par sa conclusion. Au chapitre 48 du livre de la Genèse, au verset 15, une expression, quand il est alors qu'il est en train de bénir Éphraïm et Manassé, que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger, depuis que je suis jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes hommes. Le Dieu qui a été mon berger, depuis que je suis jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal. La note nous dit pour délivrer, racheter de tout mal. Et alors, si on revient en arrière dans ce livre de la Genèse, chapitre 28, verset 10. Et Jacob sortit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan, et il se rencontra en un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit des pierres du lieu et s'en fit un chevet et se coucha en ce lieu-là. Et il songea, et voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touché aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici l'Éternel se tenait sur elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai et à ta semence. Et ta semence sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient et au Nord et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. Et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai dit. Et Jacob se réveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Et il eut peur et dit, « Que ce lieu-ci est terrible, ce n'est autre chose que la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet, et la dressa en stèle, et versa de l'huile sur son sommet. Et il appela le nom de ce lieu-là, Bethel, maison de Dieu. Mais premièrement, le nom de la ville était Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche, et qu'il me donne du pain à manger et un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. » Et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. » D'abord, ce passage-là, Jacob sortit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Les chapitres qui précèdent nous disent pourquoi Jacob s'en va à Charan. Il y a le motif officiel, si on peut dire, qu'on a dans le début de ce chapitre, Isaac qui l'envoie à Charan pour se chercher une épouse. Parce que, voilà, Ésaü avait pris des femmes du pays de Canaan et il nous était dit que ça avait déplu à Ésaü et à Rebecca. Et quelque part, ça a été l'occasion d'un prétexte pour Rebecca pour faire éloigner de Jacob de Ésaü à cause de la tromperie qu'elle-même avait organisée pour Jacob, avec Jacob, pour que Jacob reçoive cette bénédiction d'Isaac. On a dans ces chapitres qui précèdent tout un ensemble de circonstances, on peut dire que tout est tordu. On a des points importants, disons des points qu'on pourrait dire qui vont dans un bon sens, mais qui aboutissent à des manières de faire tout à fait opposées à la pensée de Dieu. Rebecca, aussi bien que Jacob, attache du prix à cette bénédiction. Et c'est quelque chose qui a toute sa valeur. Mais ça ne justifie pas ni la manière dont Jacob a usurpé le droit d'aînesse à Ésaü, ni la manière dont Rebecca a organiser une tromperie pour que Jacob soit béni à la place d'Ésaü. Isaac avait oublié ce que l'Éternel avait annoncé. Il veut bien donner cette bénédiction, mais il oublie que l'Éternel avait dit qu'elle n'était pas pour l'aîné, qu'elle était pour le plus jeune. Et on en arrive à une situation complètement inextricable, humainement parlant. Quelle relation entre Isaac et Rebecca? Quelle relation entre ses parents où l'un préférait l'un des enfants, l'autre préférait l'autre des enfants? Quelle relation entre ses frères où l'un trompe l'autre à deux reprises? Et le premier, celui qui est trompé, méprise au fond la part qu'il avait. C'est des situations qui sont malheureusement courantes sur cette terre. Et là, on en est, dans ce qu'on a lu, Jacob s'en va pour échapper à la vengeance, la crainte de la vengeance de la part d'Ésaü. Il s'en va. Il doit s'en aller à Charan. Et on a ce passage qu'on vient de lire qui est extraordinaire. Tout ce qui s'est passé avant, c'est sous le regard de Dieu. Et Dieu apparaît dans ce songe à Jacob. On reviendra sur le songe lui-même, mais d'abord je dois relever l'Éternel qui s'adresse à Jacob. « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. » Et puis tout ce qui suit, sans le détailler particulièrement, ce ne sont que des promesses. Que des promesses, que des assurances. Non pas des promesses, peut-être ceci, peut-être cela. Des promesses sûres et fermes. « Je ferai la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai et à ta semence. Et ta semence sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Nord, au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta semence. » C'est toutes des phrases qui ne supportent pas de conditionnel. C'est des affirmations, Dieu dit ce qu'il fera. Et ça continue, « Je suis avec toi. Je suis avec toi. » C'est le présent. « Je te garderai partout où tu iras. » C'est une promesse pour demain, après-demain, partout où tu iras. « Je te ramènerai dans cette terre-ci. Tu t'en vas, mais tu reviendras, je te ramènerai. Je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. » On a là une illustration, je dirais, peut-être une des plus fortes de la parole. Je ne sais pas, il faudrait comparer. Je n'ai pas comparé dans ce sens-là, comme je vais le dire là. Mais de ce qu'est une alliance comme Dieu l'est fait, sans condition. On a deux types d'alliances dans la parole. On a l'alliance qui est symbolisée le plus manifestement par la loi. Voilà, je te donne une loi, je te conduirai, fais cette loi et je te bénirai. Dieu promet quelque chose et demande quelque chose en retour. Je te donnerai le pays de Canaan, le peuple d'Israël, mais voilà la loi, voilà la mesure des choses que je te demande de suivre en échange. C'est un contrat. Un contrat où il y a deux parties, où chacun s'engage à quelque chose. Et ces contrats-là, il y en a, celui de la loi est le plus net, l'homme n'est pas capable de tenir sa partie. Là, on a l'autre type d'alliance. Dieu s'engage et s'engage lui seul. Il ne demande rien en échange. Et si on prend cette liste de choses que Dieu dit là à Jacob, et qu'on voit les chapitres précédents et la situation de Jacob, comment il est lui-même intérieurement. Il a trompé son père et son frère. Il a volé son frère du droit d'aînesse. Il est sous une menace d'une vengeance de son frère. Derrière lui, il y a au fond un foyer avec beaucoup de troubles, dont il est un des acteurs. Et il reçoit là aucun reproche de la part de Dieu qui se présente à lui comme l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Aucun reproche. Même pas une phrase qui dirait « Jacob, je sais où tu en es, mais je te ferai tout ceci. » Même pas cela. Tout n'est que promesse. Tout n'est que engagement de Dieu. Et si on reprend tout ce que Dieu dit là, c'est au fond chaque phrase, chaque promesse est une réponse à ce que je pourrais dire un type d'angoisse que nous pouvons trouver dans nos cœurs. Dieu qui se présente comme étant l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui a fait toutes choses, celui qui a toutes choses dans sa main. Pas un subalterne, c'est « Je suis l'Éternel ». C'est même pas un ange qui vient dire « Je viens de la part de l'Éternel », c'est l'Éternel lui-même qui parle. Que Jacob pourrait-il demander de plus grand. On comprend, de ce point de vue-là, la crainte. Jacob a conscience de cette grandeur. Il a tellement conscience qu'il ne réalise pas qu'associé à cette grandeur, il y a une tellement grande proximité. Dieu veut être près de lui. Il ne réalise pas, et ça nous renvoie à l'image, une échelle dressée sur la terre et son sommet touche aux cieux. Une échelle entre le ciel et la terre. Un chemin entre la terre et le ciel, entre le ciel et la terre. Les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Une circulation, si je peux dire comme ça, entre le ciel et la terre. Non pas une muraille haute, d'une hauteur infinie, lisse, avec Dieu en haut et nous en bas. Non, une échelle, une relation, un passage. Et puis, après ces promesses, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. Tu n'es pas un nomade, tu n'es pas un forain sans terre, sans comme on dit en alsacien, Heimat, sans chez soi, quoi. Tu es cette terre, maintenant tu dois la quitter, mais elle sera à toi. Elle est déjà à toi et elle sera, tu la retrouveras. Je la donnerai, je te la donnerai à ta semence, etc. Une semence dont on ne voit pas encore l'ombre à ce jour-là, etc. On peut passer en revue comme ça chacune de ces promesses et on a des réponses à tout ce qui pourrait amener de la crainte, du souci, la préoccupation dans le cœur de Jacob. Voilà le côté de Dieu. Et alors, le côté de Jacob. Ben pour comprendre, pour saisir et pour faire sien la grâce, il faut tout un travail. Ça ne vient pas tout seul. Il y a d'abord la conscience qui parle. Ensuite, il y a la volonté propre, l'orgueil. Bien des choses qui doivent être reconnues, identifiées, mises de côté. La peur d'abord, que ce lieu-ci est terrible, ce n'est autre chose que la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. Il voit bien qu'il y a une porte, mais est-ce qu'il ne la verrait pas un peu plus fermée qu'elle n'est? L'échelle, les anges montaient et descendaient. S'il y a porte, qu'on ne voit pas dans le songe, elle aurait été ouverte. Et bien sûr, cette peur que ce lieu-ci est terrible, bien sûr, on peut la comprendre. La conscience qui n'est pas à l'aise devant Dieu qui se manifeste dans sa grandeur et dans sa bonté devant lui. Et la réaction alors? Alors bon, il dresse une stèle, il met de l'huile dessus, voilà, et puis il fait un vœu. Et son vœu commence par... Non pas merci Seigneur, non pas gloire à ton nom Seigneur, non. Si Dieu est avec moi et me garde, si, là où Dieu ne mettait pas de condition, c'est Jacob qui met une condition. Là où Dieu donnait, Jacob demande presque. Si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin que je marche, qu'il me donne du pain à manger, un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. On a souvent présenté Jacob comme un marchandeur. Oui, on a bien ça. Si tu fais tout ça, tout ce que j'ai besoin, Dieu n'a pas parlé du vêtement et de la nourriture, il a parlé de choses beaucoup plus grandes. S'il a promis de le ramener et de lui donner ce pays en héritage, ben c'est bien qu'il va lui donner ce qu'il a besoin pour vivre dans tous les jours. C'est même pas la peine d'en parler. C'est sous-entendu de façon évidente. Maintenant, le souci de Jacob, il est très terre à terre. Ben, si tu me gardes, si tu me donnes selon mes besoins, si tu me ramènes en paix à la maison de mon père, bah écoute, à ce moment-là, j'écouterai ce que tu me dis, ce que tu as à me dire. Tu m'en reparleras à ce moment-là. C'est presque comme s'il disait ça. Et ça nous montre combien Jacob n'a pas fait taire ses pensées pour écouter et entendre ce que l'Éternel lui disait. C'est inutile de dire, mais on dit quand même combien on lui ressemble. Et puis, son marchandage va plus loin. J'ai dressé cette pierre-là, j'ai dressé en stèle, elle sera la maison de Dieu. Dieu ne lui a pas demandé de lui faire une maison sur la terre. C'est pour un autre temps, c'est pas maintenant le moment. Et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. C'est presque ironique de dire une phrase pareille. De tout ce que tu me donneras, ben tout ce qui est à Dieu, qui n'a pas besoin de donner, qui est libre de donner ou de ne pas donner, ben de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. Autrement dit, je t'en rendrai la dîme. Il y a toute cette vision qui est aussi ancrée dans nos cœurs que ce que nous recevons nous appartient. Ce que Dieu nous donne nous appartient. Et après, nous pouvons en faire ce que nous en voulons. Et puis, c'est un gros effort et un gros sacrifice qu'il fait. Je t'en rendrai la dîme, je t'en donnerai la dîme. Voilà comment cette promesse, ces promesses, cette révélation de Dieu en grâce est compris, ou plutôt n'est pas compris. Et alors le chemin de Jacob est marqué par cela. Si on lit un peu plus loin, on va passer par-dessus les situations, la famille de Jacob, comment elle se constitue, comment elle fonctionne, bien des choses qui sont de travers. On peut juste mentionner, pas de passage, on pourrait trouver des passages en rapport avec ça, mais quand l'Éternel lui dit que dans ce qu'on vient de lire, que je retrouve la ligne, je te donnerai cette terre, je te la donnerai et à ta semence, et ta semence sera comme la poussière de la terre, et plus loin, et les nations, les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. Je peux juste noter un point, Dieu ne fait pas de différence entre les enfants qu'a eu Jacob. Les 12 patriarches sont les 12 enfants de Jacob. Que Rachel ait été la femme aimée, souhaitée, et pas Léa. Que les servantes soient devenues les femmes de Jacob à partir des jalousies de Rachel et des trafics, des calculs, etc. Dieu n'en parle pas, la parole nous le mentionne, mais ça ne compte pas. Les 12 enfants, les 13, on verra plus tard avec Éphraïm et Manassé, on n'aura peut-être pas l'occasion d'en parler, sont comptés comme la semence de Jacob. La promesse de Dieu se réalise d'une manière ou d'une autre. Et Rachel, la femme aimée, si on peut dire, de Jacob, c'est pas parce qu'elle avait une place particulière dans le cœur de Jacob que ses enfants ont une autre place que les autres dans la suite de l'histoire d'Israël. Joseph aura une place particulière, Joseph lui-même, mais pour la suite de l'histoire du peuple d'Israël, il n'y a pas de différence. Les 12 sont comptés comme les enfants de Jacob. Alors, au chapitre 31, verset 2, Jacob regarda le visage de Laban, et voici, il n'était pas envers lui comme auparavant. Et l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et va vers ta parenté et je serai avec toi. » Et Jacob envoya et appela Rachel et Léa au champ vers son troupeau et leur dit, « Je vois le visage de votre père qui n'est pas envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Et vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force. Et votre père s'est moqué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Verset 11, « Et l'ange de Dieu me dit, en songe Jacob, et je dis, me voici. Et il dit, lève tes yeux et vois. » Je ne dis pas le détail, ce n'est pas la peine. Verset 13, au milieu, « Maintenant lève-toi, sors de ce pays, retourne au pays de ta parenté. » Verset 17, « Et Jacob se leva et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tous ses troupeaux et tout son bien qu'il avait acquis, les troupeaux qu'il possédait, qu'il n'avait pas acquis en Padan Aram, pour aller vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Et Laban était allé tondre son menu bétail, et Rachel vola les téraphimes qui étaient à son père, et Jacob trompa Laban, l'araméen, car il ne lui apprit pas qu'il s'enfuyait. Et il s'enfuit, lui et tout ce qui était à lui, et il se leva et passa le fleuve et dressa sa face vers la montagne de Galaad. L'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. » Et Jacob trompa Laban, l'araméen, car il ne lui apprit pas qu'il s'enfuyait. Les mots sont parlants. Alors même que Jacob a vu que Laban avait changé d'attitude, on passe sur ce qui était passé avant. Là aussi, Jacob avait trompé ou pensé, manigancé pour se faire un troupeau, se faire des troupeaux, sans être conscient que l'Éternel mettait sa main sur toutes ces choses-là. Ces histoires de branchages pelés qu'elle mettait devant les auges des bêtes, s'imaginant que ces branchages pouvaient jouer quelque chose, avoir un effet sur les chaleurs des femelles. Si les femelles portaient celles qui étaient à Jacob, c'est parce que Dieu mettait sa main. Ce n'est pas ces bricolages. Et là, Dieu lui dit maintenant, va, retourne au pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. Il y a la promesse, alors que le visage de Laban est changé, que l'Éternel est avec lui. Qu'est-ce que fait Jacob ? Il entend bien ce que Dieu lui dit, mais il entend bien qu'une partie. Et il entend d'autant bien cette partie-là, parce qu'elle va bien dans ce qu'il a vu lui-même, que l'attitude de Laban a changé. Une partie de ce que Dieu lui dit lui convient tout à fait. C'est le moment de partir d'ici, et je me suis fait des troupeaux, j'ai maintenant une grande famille, j'ai des biens, je peux repartir. Mais Laban est puissant, et Laban n'est pas commode. Donc, je m'enfuis en cachette. Et je n'entends pas tout ce que Dieu m'a dit, je serai avec toi. Qu'aurait fait la foi dans une telle circonstance? Elle aurait dit à Laban, l'Éternel m'est apparu et m'a parlé. L'Éternel m'a dit que je dois retourner dans le pays de mon père, dans ma famille. Et Dieu aurait ouvert le chemin à Jacob et aurait fait que Laban ne l'empêche pas de partir, comme ce qui va se passer dans la suite. Laban ne peut pas. Si on lit au chapitre suivant, que je retrouve, c'est dans le même chapitre, verset 24, « Dieu vint vers Laban, l'araméen, dans un songe, la nuit, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. » Et un peu plus loin, Laban doit reconnaître, verset 29, « J'ai en ma main le pouvoir de vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit passée, disant, « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. » Jacob doit voir que Laban est dans la main de Dieu. Il aurait pu le voir autrement que dans ces circonstances tellement tendues, avec sous-jacent, on ne va pas s'attarder là-dessus, on mentionne juste, ces téraphimes que Rachel a volé à son père et a emmené, les idoles de son père. Si on va un petit peu plus loin, regardez l'heure, je vais juste lire la fin du chapitre 32, cette rencontre de Jacob avec l'ange à Péniel. Dans ce qui précède, dans ce chapitre 32, il a envoyé des messagers auprès de son frère Ésaü. Il lui a envoyé des nouvelles pour lui dire qu'il rentrait, qu'il a de tout ce qu'il lui faut, qu'il n'a besoin de rien, autrement dit, d'une manière dite autrement, les biens de notre père, tu peux en profiter, j'ai tout ce qu'il me faut, j'en ai pas besoin. Et puis les messagers reviennent et annoncent que Jacob vient, que Ésaü vient. Et Jacob prépare des choses. Verset 8, verset 7, il partage le peuple au milieu, il partagea le peuple qui était avec lui, et le menu bétail, et le gros bétail, et les chameaux en deux bandes, et il dit, si Ésaü vient à l'une des bandes et la frappe, la bande qui restera pourra échapper. Et Jacob dit, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et vers ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la vérité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je suis devenu deux bandes. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je le crains, de peur qu'il ne vienne et ne me frappe la mère et les fils. Et toi, tu as dit, certes, je te ferai du bien, je ferai devenir ta semence comme le sable de la mer qui ne se peut nombrer à cause de son abondance. Voilà, prière de Jacob. On voit dans cette prière qu'il avait bien entendu des oreilles ce que l'Éternel avait dit. Mais ce n'était pas arrivé jusqu'au fin fond de son âme. Il se souvient de cette promesse de la semence qui serait comme le sable de la mer. Mais la promesse que l'Éternel le garderait, le conduirait, il ne l'avait pas enregistré dans toute sa force. Ça doit nous parler, nous pouvons connaître bien des choses de la parole et n'en vivre qu'une toute petite partie, n'en faire nôtre qu'une toute petite partie. Savoir des choses, mais au fond pas les connaître vraiment. Et il prépare tout cette ruse. Une ruse dans un autre sens, séparer ses biens, on met pas tous les yeux dans le même panier, comme on dit, pour que si une bande est frappée par Ésaü qui veut se venger, l'autre puisse échapper. Il fait pareil avec sa famille. Et on a cette rencontre au verset 24. On lit simplement le passage. Jacob resta seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob fut luxée comme il luttait avec lui. Je m'arrête un instant. Un homme lutta avec lui, et lorsque cet homme-là vit qu'il ne prévalait pas sur Jacob, une lutte où l'homme, ange de l'Éternel, ne prévaut pas contre Jacob. Si on le traduit dans le langage du Nouveau Testament, le vieil homme se défend toujours et combat toujours et résiste toujours. Il faut ce coup sur l'emboîture de la hanche. Il faut la victoire du Seigneur pour que le vieil homme soit mis dans la mort. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. Et l'homme lui dit, quel est ton nom? Et il dit, Jacob. Et l'homme lui dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. Et Jacob demanda et dit, je te prie, déclare-moi ton nom. Et il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et le bénida. Et Jacob appela le nom du lieu Péniel, car j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. Et le soleil se levait sur lui comme il passait Péniel, et il boitait sur sa cuisse. La suite du chapitre 33 nous montre la rencontre avec Ésaü, un Ésaü tout à fait différent de ce que Jacob craignait, un Ésaü préparé par l'Éternel pour cette rencontre. Pour autant, Jacob n'a pas compris la leçon. Il dit à Ésaü qu'il va le suivre jusqu'en Séir, et puis il s'en va ailleurs. Et puis les leçons continueront. Mais ce point-là est une charnière dans la vie de Jacob, en même temps. Une autre connaissance de Dieu, une autre connaissance des soins que Dieu a pour lui, avec encore des leçons à apprendre, des leçons qui arrivent au terme, quand il peut, devant le Pharaon, si on saute carrément à la fin, chapitre 47, quand devant le Pharaon, au verset 7, Joseph fit entrer Jacob son père, le fit se tenir devant le Pharaon, et Jacob bénit le Pharaon. Et le Pharaon dit à Jacob, « Combien sont les jours des années de ta vie ?» Et Jacob dit au Pharaon, « Les jours des années de mon séjournement sont 130 ans. Les journées des années de ma vie ont été courts et mauvais, et n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères dans les jours de leur séjournement. » Et Jacob bénit le Pharaon et sortit de devant lui, devant le Pharaon. Et si on relit cette expression du chapitre 48, ce qu'on avait lu au début, le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal. On a un chemin parcouru qui est énorme que... On peut le dire, nous sommes tous appelés à faire ce chemin. Nous pouvons le faire avec plus ou moins de détours. Nous pouvons après, avec plus ou moins de détours, quand je le dis comme ça, c'est peut-être pas tout à fait juste. Il y a dans nos vies toujours des tas de détours. Ils ne sont pas les mêmes chez chacun. Nous avons des détours différents les uns et les autres. Nous avons les peines différentes à entendre, à écouter, à saisir ce que Dieu veut nous dire quand il veut se révéler à nous dans ce qu'il est, en grâce, en vérité. Mais l'important, c'est bien cela. Réaliser que il veut être, il est, il sera, et à un moment, on peut dire, il a été mon berger depuis ce jour, depuis que je suis jusqu'à ce jour-là. L'ange qui m'a délivré, qui m'a racheté de tout mal. On a des promesses extraordinaires et des ressources extraordinaires. À la clé de tout cela, on a l'amour du Seigneur que nous avons rappelé ce matin dans le culte, à la croix, ce prix infini qu'il a payé, cet abaissement, cette victoire. Une victoire comme Jacob n'en a pas eu là. Connaissance littérale que nous avons.